Alors ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, précisément à partir du verset 31 au verset 33. Amen. Est-ce que nous sommes au pas? Si nous sommes à la ligne, bien-aimés, mettons-nous debout. Alléluia. Alors, je vais lire pour nous. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. Verset 32. Ce mystère est grand et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Verset 33, mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même et la femme doit respecter son mari. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés. Amen. Alors, bien-aimés, quand nous lisons ce passage, alors, à première vue, je crois qu'il s'agit du mariage. Alléluia. Et du coup, les jeunes personnes qui ne sont pas encore dans un mariage peuvent se dire, alors ça ne nous concerne pas. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit bien, ça concerne tout le monde. Amen. Oui. Bien aimé, quand nous lisons ce passage, alors, nous pouvons l'interprétation littérale. Donc, littéralement, ce passage parle du mariage. Amen. Du mariage. Mais quand nous regardons d'un point de vue spirituel, amen, d'un point de vue spirituel, nous pouvons voir que cela signifie tout simplement une fois que nous rencontrons Jésus-Christ, amen, le Seigneur, et que nous recevons de lui la rémission de nos péchés. En croyant en son bel évangile, bien-aimé, nous devons laisser nos habitudes. Amen. Nos habitudes passées. Nos croyances du passé, nous devons laisser le vieil homme en un seul mot. Amen. Le vieil homme ici reflète notre façon de penser, la pensée, notre façon de penser d'avant, nos coutumes d'avant, amen, notre façon, notre manière de faire. Nous devons oublier nos origines de départ. Amen. Oui. Parce que d'un point de vue physique, nos mariages d'un point de vue physique, amen, n'est que l'ombre de la réalité spirituelle. Amen. Oui. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai dit, les jeunes gens qui sont dans la salle, qui ne sont pas mariés, peuvent entendre le mot mariage et dire, non, nous ne sommes pas concernés. Ça concerne les mamans, ça concerne les papas, non. Ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que l'aspect physique de la chose, ce n'est que la partie visible. Amen. Ce n'est que la partie visible. La partie importante et fondamentale, la réalité, en fait, de la chose, c'est la partie spirituelle. Amen. Et donc, pour mieux comprendre le mariage avec Christ, j'ai commencé par dire, Le thème du message de ce soir, c'est Dieu et toi, pour nous permettre de mieux comprendre. Amen. Dieu et toi. Voilà le thème du message. Dieu et toi. Et donc, l'aspect physique du mariage viendrait tout simplement pour nous apprendre la réalité, pour nous permettre de comprendre la réalité spirituelle de notre mariage avec Christ. Amen. L'Église est l'épouse de Jésus. Amen. Quand on dit l'épouse, on n'a pas seulement dit les hommes, les femmes, c'est tout le monde qui appartient au corps de Christ, qui appartient à l'Église. Christ qui est la tête, il est l'époux. Et nous sommes les épouses. Ou alors nous sommes les fiancés, si on peut dire ainsi. Amen. Mais ici, on parle d'un mariage. Donc, nous sommes l'épouse et Christ est l'époux. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Amen. Et donc, d'un point de vue physique, logiquement, quand on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Nous voyons une implication d'une séparation. Amen. Il y a une séparation et s'attachera à sa femme. Donc, dans ce verset que le Seigneur nous donne ce soir, nous voyons deux aspects de la chose. Pour un bon mariage avec Christ, il faut au préalable une séparation. Amen. Séparation d'avec sa famille, son père et sa mère, et puis maintenant, attachement à son homme, à son mari. Amen. Et vice-versa. Quelqu'un peut comprendre? Vous allez vous rendre compte que dans un mariage physique où la femme ou l'homme a tendance à trop écouter ou alors à laisser sa famille interférer dans son foyer, il y a toujours problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours problème. C'est pourquoi l'on parle, pour que ça soit parfait, réussi. Il doit avoir premièrement une séparation. Et le Seigneur Jésus va d'ailleurs le dire dans le livre de Matthieu, au verset Matthieu 24, non, Matthieu 16, au verset 24. Voyons un peu ce que le Seigneur dit à ce niveau. Il va dire quelque chose de très, très pertinent. Amen. Le Seigneur va dire quelque chose. Il va dire, il va, verset 24, Matthieu 16, verset 24, il va dire, alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Donc, qui se sépare, qui l'oublie, qui il est sa source, son origine. Alléluia. C'est très important. C'est la même chose. Dans le mariage physique, pour qu'il y ait une bonne communion qui plaise à Dieu. Amen. Il doit y avoir une séparation. Une séparation d'abord. Tu ne peux pas dire que tu vas en mariage, tu vas avec les mêmes bagages de l'époque, de ton ancienne vie, tu viens dans le mariage, ça ne va pas tenir. L'homme va te supporter pour un, deux jours. Mais après, il va dire non. Je voulais une femme qui va me respecter. Amen. Parce que la suite du cours, un peu plus loin, quand on remonte un peu plus loin, l'homme, Dieu va dire à l'homme que l'homme, que la femme soit soumise à son mari. C'est bien ça. Mais le commandement ne s'arrête pas là. Il va s'adresser aussi à l'homme. Que l'homme respecte sa femme. Amen. Donc, vous voyez, d'un côté, chacun a quelque chose qu'il doit renoncer, des bagages qu'il doit renoncer. Amen. Des bagages auxquels il doit renoncer. L'homme, de son côté, doit renoncer son orgueil. Amen. Et la femme, de son côté, doit faire quoi? Être soumise. Voilà la réalité physique. Maintenant, sur le plan spirituel, Christ est l'époux et nous sommes les épouses. Amen. De la même manière que quand la femme se comporte mal, ne se soumet pas à son mari, le mari est mal à l'aise. De la même manière, quand l'Église ne se comporte pas bien vis-à-vis de Christ, Christ également se sent mal à l'aise dans sa chair. Amen. Maintenant, quelqu'un qui doit te bénir, s'il est mal à l'aise à cause de ton comportement, je te pose la question, tu crois qu'il va encore te bénir aisément? C'est parce qu'il est content qu'il te bénit. Amen. C'est parce qu'il est content. Mais quand la colère est là, tout ce qu'il peut faire, c'est des paroles de malédiction qui peuvent sortir. Amen. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Maintenant, nous allons voir un aspect ou autre aspect de la chose. Quand l'homme quitte, quand la femme quitte sa famille, l'homme quitte sa famille de l'autre côté, pour que les deux se mettent ensemble, alléluia, il y a une fusion. Et la fusion vient maintenant à quel niveau? La femme perd son nom au profit du nom de l'époux. Amen. Ce n'est pas un au hasard. C'est que nous voyons dans l'aspect, dans le monde physique, dans la réalité physique. Il ne faut pas croire que ça se limite là. La même manière que la femme perd son nom de famille pour épouser l'homme, le nom de son époux, c'est la même chose. Quand tu deviens un avec Christ, désormais, on t'appelle chrétien. Alléluia. On ne t'appelle plus par ton nom, mais on t'appelle par le nom de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Le mariage charnel a été donné à l'homme pour lui permettre de mieux comprendre le mariage spirituel avec Christ. Comment ça se fonctionne? Parce que si tu gères mal le mariage physique, si tu ne comprends même pas déjà bien, sache que c'est évident qu'avec Christ, tu joues avec ta relation avec lui. Quelqu'un me comprend? Et donc, je le disais tantôt, quand tu dois quitter, quand la femme va en mariage, elle oublie d'avance son nom et elle porte le nom de son mari avec joie. Amen. Elle porte avec joie et fierté. Alléluia. Maintenant, cela ne va pas sans conséquence. Amen. Cela ne va pas sans conséquence. De la même manière que tu portes le nom de ton mari, ça veut dire que tu épouses également les coutumes, la famille de ta belle famille. Alléluia. Tu fais du Dieu de ta belle famille ton Dieu. Tu fais de la famille de ton époux ta famille. Amen. Tu fais, je vais dire quoi? Tu fais exactement tout ce qui leur appartient, t'appartient. Donc tu hérites du patrimoine, que ça soit physique. Mais plus, généralement, nous voyons le patrimoine physique. Amen. Nous voyons le patrimoine physique. Mais tu hérites aussi du background de la famille de ton mari. Quelqu'un me comprend? Maintenant, nous sommes dans un cadre d'un mariage avec Christ. Le parfait mariage. Alléluia. Parce que le background de notre époux, c'est un background pur. Amen. C'est un background commun, pur. Quel privilège. J'ai pris le cas du mariage physique pour que tu comprennes que la même manière que les batailles, la famille de ton mari, là, ça devient des batailles. Parce que les enfants que tu vas enfanter dans cette foyer, dans cette famille, là, vont les batailles. Alléluia. Ils vont subir les mêmes batailles de cette famille. Quelqu'un comprend très bien. Voilà pourquoi on dit, il y a fusion. Il y a fusion. Et donc, pour éviter cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, même au milieu des non-croyants, parce que nos parents, nos ancêtres, quand ils se mariaient, ne connaissaient même pas Jésus. N'est-ce pas? Vrai ou vrai? Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être eux-mêmes, ils ne comprenaient pas la réalité de la chose. Mais c'était plus spirituel. Vous voyez, je parle de la femme qui part en mariage et qui épouse sa belle famille entièrement, le nom de la famille de son mari, amen, et puis tout le background, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand la femme va en mariage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on vient doter la femme, la famille de l'homme vient avec quoi? Avec des choses. Quand on dresse la liste de la dot, dans la liste, il y a quand même quelque chose de plus important. Mais généralement, les gens ne voient pas ça avec l'œil spirituel. Alléluia. Dans la liste qu'on va donner, il y aura toujours une valise pour la femme. Alléluia. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question un jour de savoir quelle était l'utilité de cette valise? Ou c'était tout simplement parce que on veut absolument faire dépenser le mari, ou alors il y a une signification profonde derrière tout cela? Non? Non? Amen? Ça a une signification profonde. Voilà pourquoi il dit, nos parents, même ne connaissant pas Christ, les réalités, ils connaissaient au moins les réalités spirituelles, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui, absolument qu'on doit faire. Amen? Et dans cette valise, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a toute une garde-robe pour la fiancée. C'est pas ça? Il y a toute une garde-robe jusqu'aux chaussures. Amen. Oui. En fait, pour certaines personnes, quand ils n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la valise, prennent un pain, ils mettent dedans. Avec un peu d'argent, ils envoient. Alléluia. Amen. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu n'as pas compris. Et même la personne qui prend ne comprend pas réellement ce qui est en train de se passer. Quelqu'un me comprend? La réalité qui se cache derrière cela, il y a un transfert qui est sur le point d'être fait. Et ce transfert, c'est quoi? C'est que la femme doit, elle est sur le point d'abandonner tout pour partir. Ça, c'est selon le plan de Dieu. Parce que Dieu dit, tu dois te séparer, tu dois quitter tout pour aller. Et vous allez devenir un seul. Bon, maintenant, quand tu ne quittes pas tout, amen, quand tu ne quittes pas tout, tu prends les bagages, des anciennes choses, ton ancienne valise, qui était d'abord à la maison. Tu vas en mariage avec ça. D'un point de vue physique, c'est normal, ce sont tes habits que tu portais, c'était bien sur toi. Alléluia! Mais d'un point de vue spirituel, il ne s'agit pas des habits. Il s'agit ici des vêtements spirituels que tu portes, c'est-à-dire les mentalités pourries de ta famille, les démons cachés de ta famille qui te persécutaient. C'est ça que tu portes pour venir dans ta belle famille. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Oui, il s'agit de ça. Voilà pourquoi j'ai dit, nos grands-parents ne maîtrisant même pas très bien ces choses, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Sur la liste, on met toujours la valise de la femme. Tu dois acheter ces choses. Peut-être le mari va trouver qu'il me demande un peu trop. Mais en réalité, c'est ta bien-aimée. Et quand tu l'amènes, tu vas toujours l'habiller. Tu vas la rendre belle à ton image. Alléluia. Donc, quand on te demande ça, d'une façon très simple, modeste, c'est pas qu'on est en train de te rendre un service, un grand service. Amen. Oui, on est en train de te dire, viens avec les choses nouvelles, avec les réalités de ta famille, et puis tous les démons de notre famille restent ici et que notre fille aille en paix. Alléluia! Qu'elle vole, comme qu'elle s'élève, qu'elle brille, qu'elle s'envole. Alléluia! Oui, qu'elle laisse les bagages qui vont l'empêcher d'aller haut. Elle laisse ça et puis tu viens avec les éléments qui vont l'amener au sommet. Alléluia! Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Oui, c'est la même chose. Et nous allons voir, dans le cadre des Écritures tout à l'heure, on va voir, pendant que nous allons évoluer, nous allons prendre quelques cas, illustrations bibliques, pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous voyons avec nos yeux, et on simplifie, et ça paraît même très banal. Alléluia! Non, dans le règne spirituel, ce n'est pas banal. Ça a une profonde signification, une grande valeur. Amen. Oui. Une femme qui vient en mariage, elle était tellement autoritaire dans sa famille. Si tu viens dans ton foyer, même si tu es belle comme la lune, si tu viens avec les mêmes comportements, l'homme va se fatiguer de toi dès les premiers jours. Il va dire, je voulais une femme soumise. Je ne voulais pas une catcheuse parce que mon lit n'est pas, ou alors ma chambre n'est pas un ring de bourse où je vais bourser tous les jours. Amen. Oui. Ça, c'est très, très important. Amen. Et donc, le fait que la famille de l'homme vienne avec la valise, la femme, tout, c'est pour dire, nous venons avec toi. La saison, Jésus-Christ lui-même disait qu'on ne peut pas mélanger le vin nouveau dans les vieilles huttes. Voilà pourquoi la famille de l'homme vient toujours avec valise, amen, pour la femme, pour dire que tout ce qui est mauvais dans cette famille, ça va pas. Et désormais, tu ne tiens plus à cette famille, tu appartiens désormais à une nouvelle lignée. Amen. C'est la même chose, la réalité spirituelle en Christ. Quand nous venons en Christ, nous venons des bagages, amen. Nous venons avec des bagages. Mais la vérité, c'est que Christ, qui est l'époux parfait, amen, il s'est chargé au préalable de nous décharger de tous ces bagages. Quelqu'un me comprend? Christ s'est chargé de nous dépouiller de tous ces bagages avant toute chose. Amen. Quand Christ est venu dans ce monde, c'était pour nous sauver de tous ces bagages qui nous pesaient énormément, qui nous empêchaient de marcher. Alléluia. De ces bagages qui nous condamnaient à la mort. Christ est venu se charger de toutes ces choses. Malgré tout cela, il y a quand même bon nombre de chrétiens qui disent, Christ, tu n'avais pas tout porté. Tu avais porté pour d'autres personnes. Mais il y a certains bagages que nous devons rester avec ça. Et c'est force donc de rester avec cela. Voilà pourquoi le corps de Christ va mal. Alléluia. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce soir? Oui. Le corps de Christ va mal, tout simplement, parce que Christ a dit, je viens prendre tout. Il est venu régler. Le sacrificateur Jean-Baptiste, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Donc, Christ est venu enlever cela. Mais cependant, beaucoup disent, tu as enlevé pour les autres. Tu as enlevé certains. Mais il y a ce qui doit rester avec nous, ton pied, mon pied. Et il caresse cela chaque jour. Amen. Et chaque péché que tu caresses dans ta vie, au lieu de le traiter durement. La Bible appelle cela des petits renards qui détruisent la vie. Amen. Ce sont les détails. Les détails que tu trouves que non, c'est insignifiant, c'est pas grave. Là au moins, amen. Mais c'est ça qui te détruit. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Pour aller, pour voir, pour comprendre la portée de la chose. Ce soir, il faut comprendre une chose. Quand nous regardons, nous allons dans le livre de Ruth. Ruth, au chapitre 1, verset 6. La parole va nous dire quelque chose. Amen. Nous allons prendre un cas d'illustration pour montrer, effectivement, quand tu t'es des bagages de la famille pour épouser entièrement la nature de ton époux. Alors tu verras que justement, tu seras béni dans ce foyer. Amen. Tout ne sera que bénédiction. Tu pourras peut-être traverser des zones de turbulence, mais la victoire est de ton côté. Amen. La victoire est de ton côté. Pourquoi? Tu dois traverser des zones de turbulence. Parce que la vie est faite des hauts et des bas. Si ça va tout droit, c'est qu'il n'y a plus la vie. C'est quand ça monte, ça descend, qu'on comprend qu'il y a la vie. Amen. Pour ceux qui ont été déjà à l'hôpital en réanimation, ils se rendent compte que quand on met quelqu'un sur oxygène, l'appareil qui montre que tu es encore en vie, ça fait des courbes haut, bas. Mais quand ça commence à siffler, puis tout droit, on dit que la vie est en train de le quitter. Amen. Donc, c'est ça. Donc, nous allons prendre l'histoire de Ruth et de sa belle-mère Naomi. C'est Ruth, chapitre 1. Amen. Disons le verset 6. Qu'est-ce qui est dit à ce niveau-là? Il y a le micro à côté là. Tu peux lire à haute voix.
Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain.
Oui.
Verset 7.
Oui.
Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9, « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10, et elle lui dit, non, nous irons avec toi, fais ton peuple. Verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi.
Alors, verset 16.
Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen.
Alléluia. Voilà une belle illustration d'une bonne séparation et d'un bon attachement. Alléluia. Je vous le disais, tu ne peux pas demeurer un avec Christ si tu n'étais pas au préalable séparé de toi-même. Amen. De toi-même, quand il dit de toi-même, de tout ce que tu comportes. Amen. Dans la chair. Et c'est la même chose que nous voyons ici avec Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu quittes ta famille, tu renonces à prendre l'identité de ta belle famille. Voici deux personnes. Une belle-mère et une belle-fille. Amen. Mais Ruth, elle a tout quitté. Pour suivre qui? Sa belle-mère. Elle avait la possibilité d'aller se remarier. Amen. Elle avait la possibilité, elle avait le choix, mais elle a choisi de suivre sa belle-mère. une belle-mère, toute vieille, qui ne pouvait plus enfanter. Dit que bon, attends, et quand bien elle pouvait, si elle pouvait enfanter, le temps 10 pour atteindre l'âge de ses maris. Ruth devait toujours être là, elle devait elle-même vieillir. Amen. Mais cette illustration vient tout simplement nous montrer quoi?
Oui.
Que lorsque nous nous séparons de nos bagages, nous devons en même temps rester intègres avec le mari. Amen. Et c'est cette intégrité que Christ demande avec nous. Christ qui est l'époux et l'église. C'est cette intégrité que Christ demande. Il veut voir manifester cela dans le corps de Christ. Amen. Ici, elle a suivi sa belle-mère. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Mais nous allons voir. Ici, la suite, c'est la suite qui est importante. Dans sa fidélité, dans son intégrité, nous allons voir l'histoire, la fin de l'histoire, comment elle va être puissamment bénie. Amen. Aujourd'hui, on parle toujours de Ruth et de Naomi. On ne peut pas parler Ruth sans voir Naomi. On ne peut pas parler de Naomi sans voir Ruth. Alléluia. Et les Écritures, quand nous rentrons dans le livre de Matthieu au chapitre 1, quand il faut rentrer dans la généalogie de Jésus-Christ, nous voyons le Seigneur a fait, il a donné le privilège à cette dame qui au départ n'était pas prédestinée, n'était pas prédestinée pour porter la lignée, pour porter le sang royal. Elle s'est retrouvée à cause de sa fidélité, à cause de son intégrité, elle s'est retrouvée comptée parmi les ancêtres de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme pour dire, tout ce que tu veux faire, tu es dans un foyer. Un foyer physique, reste intègre. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas faire pour plaire aux gens. Mais tu dois faire parce qu'il faut plaire à ton Dieu. Amen. Quand tu le fais pour plaire à ton Dieu, alors ça plaît également aux hommes. Si ça plaît déjà à Dieu, il va ouvrir les yeux des hommes autour de toi. Et ça plaît aussi. Alléluia. Naomi a été puissamment bénie à cause de Ruth. Mais à cause surtout de sa fidélité. Voilà une belle-mère et une belle-fille. Vraiment, ce n'est pas des occasions qui manquaient pour les deux de manifester des tensions. Alléluia. Nous connaissons comment une fille, quand ils doivent cohabiter ensemble de nos jours, nous savons ce que ça fait. Alléluia. Ce n'est pas des opportunités qui avaient manqué pour les deux, pour manifester des tensions, mais ça a été plutôt des occasions pour elles de manifester leur tendresse. Non seulement leur tendresse, écoutez, ton Dieu sera mon Dieu. Alors nous voyons qu'entre les deux femmes, il y avait un point, il y avait trois points communs. Amen. Il y avait trois points communs qui rassemblaient les deux femmes. Le premier point commun, c'était quoi? C'était leur chagrin. Les deux femmes partageaient en commun leur chagrin. Amen. D'une part. Mais d'autre part, les deux femmes partageaient également quoi? La priorité à leur engagement envers le Dieu d'Israël. Quelqu'un me comprend? Ruth était Moab, c'est-à-dire un peuple maudit, où leur Dieu, c'est l'abominable Dieu qu'ils appelaient Kemosh. Allez, il était vraiment moche, qu'on appelait Kemosh. Alléluia. C'était leur Dieu. Amen. Mais elle a renoncé à ce Dieu et a adopté le Dieu de sa belle-mère, qui était le véritable. Alléluia. Amen. Mais combien de nous quittent leur maison maternelle pour aller en mariage et oublier le Dieu de leurs parents. Combien? Dans la chair. Amen. Nous voyons des gens, ils disent qu'ils allaient en mariage, mais tout le temps, ils sont chez eux pour faire les sacrifices. Alléluia. Pourtant, Christ a déjà fait le sacrifice parfait pour chacun de nous. Alléluia. Oui. Il faut comprendre ces choses. Maintenant, dans le cas des femmes qui sont en avant, mais toujours avec le Dieu, ou alors les coutumes de la maternelle, nous nous rendons compte qu'ils attirent sur eux quoi? La destruction totale. Amen. La destruction totale. Nous avons pris un premier le cas de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Ça, c'est un bon cas. C'est l'image même que Dieu veut nous voir, veut attendre de nous en tant que son épouse. Amen. C'est l'image que Christ attend de nous. Maintenant, nous allons voir dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse. On va voir Genèse 31. Genèse 31 au verset 19. On va voir autre chose. Un autre cas. Amen. Nous allons voir le cas de Rachel. Rachel qui va aller en mariage, bien évidemment, mais ne va pas aller seule. Amen. Ne va pas aller seule. Elle va aller avec les dieux de son père. Amen. Elle va aller en mariage avec les dieux de son père. Au lieu de se... Écoutez, la parole de Dieu est vraie. Amen. Elle est vraie, elle est vérité. Vous voyez, cette dernière, quoi qu'étant la préférée de Jacob, elle va quand même faire l'effort de partir de chez eux avec les dieux de sa famille. Disons le verset 19 pour suivre. Si quelqu'un ou pas, nous pouvons lire. Genèse 31, verset 19.
Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite.
Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 19. Amen. Nous voulons juste voir la femme. Nous disons, le verset nous dit au départ que l'homme doit se séparer. Amen. Mais ici, on voit que Rachel ne s'était pas séparée. Elle avait pris soin de porter les dieux, les idoles de son père, mettre dans son sac et partir avec ça. Amen. Lisons le verset 34 pour voir ce qui va se passer. Verset 34, du même chapitre 31.
Verset 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien.
Alléluia. Ici, nous allons voir. La suite, nous allons comprendre que, nous allons voir que Rachel a eu des problèmes au niveau de ses entrailles. Amen. Elle a eu quoi? Des problèmes au niveau de ses entrailles. C'est à peine qu'elle a attrapé les deux fils que le Seigneur lui a donnés. Amen. Mais quand nous regardons très bien, nous voyons que la cause, c'était elle-même. Parce que sa sœur Léa ne s'était pas préoccupée des bagages de sa maison paternelle. Mais elle s'en était préoccupée. Et quand Laban vient, qu'est-ce qui se passe? Elle s'assoit dessus. Elle était sur le chameau et le chameau était assis sur ses idoles. Amen. Et du coup, ces idoles ont fait quoi? Ont affecté ses entrailles. Donc, quand tu quittes, cela nous montre tout simplement, quand tu quittes la maison paternelle avec les bagages de cette maison, alors, ça ne peut que causer destruction dans ta vie. Destruction et mort. Alléluia. Rachel est précipitamment. Elle a eu des problèmes. pour enfanter. Et non seulement cela, elle est morte aussi précipitamment. Alléluia. Cela devrait attirer notre attention. Amen. Oui, bien-aimé. Cela devrait attirer notre attention. Oui. Christ attend de nous quoi? Après avoir écouté, Christ attend une bonne séparation. Amen. Une bonne séparation. Tu ne peux pas aujourd'hui te réclamer enfant de Dieu et continuer de vivre une vie du passé. La vie que tu menais avant de rencontrer Christ. Amen. Non. Tu ne peux pas t'attendre à une bénédiction certaine. Ce n'est pas possible. Christ n'est pas ministre du péché. Amen. Il n'est pas ministre du péché. Et donc, toi qui es son corps, tu ne dois pas livrer ce corps au péché. Amen. J'ai dit quelqu'un ce soir, c'est que entre Christ et toi, ça sera un peu comme l'huile et l'eau. Vous voyez? Quand il y a un mélange d'huile et de l'eau, la pâte ne peut pas être homogène. Par contre, ce que Dieu, Christ attend de nous, c'est que nous soyons comme le sel. Amen. Quand le sel se mélange à l'eau, ça se fond et on ne voit plus le sel, on ne voit que l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, l'on doit voir au travers de nous, on doit voir Christ. Nous sommes l'image, la lettre visible de Christ. Quand on nous regarde, ce n'est pas nous que l'on voit. Quand le monde nous regarde, ce n'est pas nous que le monde voit, mais c'est l'image de Christ au travers de nous. Alléluia. Oui, l'image de Christ. Donc, tous ces bagages, ce soit la question que j'ai envie de poser à chacun de nous. Es-tu vraiment marié à Christ? Ou alors, portes-tu encore des bagages de ton ancienne vie? C'est à chacun de s'examiner. Amen. À chacun de s'examiner. Si tu es marié à Christ, tu dois savoir que ta bouche, c'est la bouche de Christ. La bouche de Christ bénit. Elle ne maudit pas. Amen. La bouche de Christ fait quoi? Ça bénit. Elle ne maudit pas. Amen. Christ est amour. Il n'y a en lui point de haine. Amen. Sa bouche, ce n'est pas une bouche de commérage, non? Amen. Ce n'est pas une bouche de commérage. C'est une bouche pour bénir, pour dire des paroles qui bénissent, des paroles qui donnent la guérison. Amen. Des paroles qui donnent la vie. Amen. Pose la question à ton frère, à ton voisin. Es-tu vraiment marié à Christ? Ou alors portes-tu encore des bagages de ton ancienne vie? Pose-lui la question encore une fois de plus. Es-tu vraiment l'épouse de Christ? Ou alors encore, as-tu encore dans ta valise les bagages de ton ancienne vie? Et maintenant, il doit te répondre. Amen. Pose la question et qu'il te réponde. Amen. Si tu es vraiment marié à Christ, nous venons de voir tout à l'heure que la relation qui liait Ruth à Naomi, c'est-à-dire qu'ils avaient trois points communs qui les liaient. Amen. Les deux partageaient en commun la profondeur de leur chagrin. Amen. En deuxième position, les deux partageaient quoi? la grandeur de leur affection mutuelle. La grandeur de leur affection mutuelle. Est-ce que tu aimes Christ comme Christ aime? Pose-toi la question. Dis, est-ce que j'aime Christ comme Christ m'aime? Amen. Pose-toi cette question. Si tu aimes réellement Christ, parce que l'amour de Christ pour toi n'est plus à démontrer. Amen. Christ s'est donné pour toi. À cause de son amour pour toi, il s'est donné pour toi. Il a accepté mourir avant de ressusciter. À cause de qui? À cause de toi et moi. Donc, son amour n'est même plus à démontrer. Maintenant, la question que chacun devrait se poser, est-ce que moi aussi, je l'aime comme il m'aime? Est-ce que cet amour est mutuel? Comme entre Naomi et Ruth. Amen. La troisième chose qu'ils ont en commun, j'ai dit tout à l'heure, c'était la priorité de leur engagement envers le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que ton engagement envers Dieu est vrai et sincère? Alléluia. Voilà ces trois questions. Tu vas rentrer ce soir avec les trois questions. Tu vas rentrer méditer sur cela. Est-ce que j'aime Jésus comme lui, il m'a aimé? Amen. Est-ce que mon engagement envers lui est sincère? Alléluia. Oui. Bien-aimé, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de trop se casser la tête. C'est aussi simple. Christ n'attend pas de très grandes choses de nous. Amen. C'est des choses aussi simples. Il sait que ce qu'il attend de nous, nous pouvons le faire. Est-ce que j'aide quelqu'un en disant cela? Il sait ce qu'il attend de nous. C'est à notre portée. Nous n'allons pas aller chercher. Il ne nous demande pas de faire l'extraordinaire. Non. Nous pouvons le faire. Parce qu'il a mis en chacun de nous des capacités pour faire exactement sa volonté. Amen. Mais nous résistons. Alors, j'ai envie de poser cette question. Vous voyez, on dit, le mari et la femme doivent tous dû chercher à bâtir une relation saine. Amen. Nous sommes dans un foyer physique, charnel. Amen. Pour que le foyer soit stable, les deux doivent ensemble faire des efforts pour bâtir une relation saine. Amen. Si dans cette relation, il y a quelqu'un qui regarde à gauche, l'autre regarde à droite, les choses ne peuvent pas tenir. Amen. Parce que quand tu regardes à gauche, l'autre regarde à droite, entre-temps, vous invitez qui au milieu de nous, de vous? Vous invitez l'ennemi au milieu de vous. Et quand il vient, il n'a que trois missions essentielles. Vous détruire, vous voler, vous égorger. Amen. Non, il vient détruire ce foyer. S'il ne parvient pas à voler, il vous détruit. Mais s'il parvient à voler, il vole quand même, vous restez là, mais la substance fondamentale est volée. Vous restez là comme deux coquilles. Amen. Alors, si le mari ignore sa femme, alors il ne sera pas bien traité par sa femme. Tout comme la femme ne sera pas bien traitée par son mari si elle ne le traite pas bien d'abord. Alléluia. Je vais quelque part. De même. Amen. De même. L'Église ne peut pas attendre beaucoup de bénédictions de Dieu si elle ignore sa volonté. Amen. Toi, tu ne connais pas la volonté de ton Dieu. Tu ne peux pas bien le servir. Et si tu ne peux pas le servir, ça veut dire que tu ne peux pas attendre grand-chose de lui. Tu ne peux pas attendre grand-chose de lui. Amen. Puisque ta bénédiction est liée à ton service. C'est ce que le Seigneur dit. tu vas le servir et il va te bénir. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Mais pour le servir, il faut connaître sa volonté. Tu ne connais pas sa volonté. C'est que tu vas croire faire en bien. Ça s'appelle le mal. Est-ce qu'on se comprend? Ça sera pour lui le mal. Et ce ne sera pas sa faute. Nous servons un Dieu saint. Et tu ne peux pas le servir dans le péché. Amen. Sa sainteté va te tuer, ça va te détruire. Amen. Nous avons vu le cas de ce bonhomme qui voulait très bien faire. Il croyait rendre service à Dieu en voulant arrêter l'arche de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui-même l'a frappé. Il n'avait pas l'intention de mal faire. Il voulait tout simplement bien faire. La première fois que je lisais ce passage, je me posais la question, mais attends, le Dieu s'il a... Mais voici quelqu'un qui voulait bien faire. Amen. Mais avec du recul, nous comprenons. Est-ce qu'il était saint pour toucher l'arche? Est-ce qu'il était habilité à toucher cela? Non. Amen. C'est la même chose avec Christ. C'est la même chose. Alors, je disais, de même, l'Église ne peut pas attendre beaucoup de Dieu, de bénédictions de Dieu si elle ignore sa volonté et fait tout ce qu'elle veut. Quand tu ignores la volonté de quelqu'un, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que toi, tu veux. Pas ce que la personne veut. Amen. Si l'Église de Dieu était désobéissante à sa volonté et ne servait pas son évangile, alors Dieu nous bénirait. Alors Dieu nous bénirait, il ne nous bénirait pas. Amen. Si l'Église était désobéissante à sa volonté, la conséquence de la désobéissance, c'est quoi? C'est la malédiction. Dieu ne nous bénirait pas son Église. Amen. Non, pas du tout. Plutôt au contraire, l'Église attirerait la malédiction sur elle. Amen. Oui. Alors, si l'Église de Dieu était désobéissante à sa volonté et ne servait pas son évangile, alors Dieu nous bénirait pas. Il ne bénirait pas nos efforts. Il ne nous bénirait pas et on ne prospérerait pas dans nos efforts. Voilà pourquoi tu peux être enfant de Dieu. Amen. Tu fais des efforts infructueux. Amen. Pourquoi? Parce que tu travailles. Ce n'est pas parce que tu travailles, mais tu travailles mal. Tu travailles mal pourquoi? Parce que tu ne connais pas réellement la volonté de Dieu pour toi. Amen. Oui. Tu vas travailler, mais tu es surpris de voir que rien n'avance. Amen. Alors, effectivement, c'est précisément parce que l'Église, le corps de Dieu, obéit à sa volonté qu'il bénit ce que nous faisons. Amen. C'est parce que nous obéissons à sa volonté qu'il nous bénit. Amen. Amen. Alors, et sa volonté, c'est quoi? C'est servir l'évangile. Amen. Dieu n'a pas la seule chose qu'il désire. Amen. Il a dit dans Ézéchiel 33, verset 11. Amen. Il a dit une chose. Dieu ne désire pas que le méchant périsse, mais il désire qu'il change et qu'il vive, qu'il se répande, qu'il revienne à lui-même. Amen. Quand il revient à lui, nous avons un Dieu miséricordieux. À chaque fois qu'un homme est en train de se tromper, quand le Seigneur attire ton attention et tu reviens en toi-même, ouvert pour t'accueillir et te dire, ma fille, mon fils, j'entre dans la joie de ton père. Alléluia. Oui, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que tu aides Dieu à faire ce que tu dois faire. Amen. Le Seigneur posait la question. Qui enverrai-je parler pour nous? Amen. Qui enverrai-je parler pour nous? Et la réponse, est-ce que tu es prêt à dire, me voici Seigneur? Amen. Est-ce que tu es prêt à répondre, me voici Seigneur, envoie-moi? Comme Ésaïe, en son temps, avait répondu. Amen. Donc, voilà la volonté de Dieu. Dans un mariage avec Christ, nous devons comprendre. Ce que nous pouvons résumer ce soir, c'est que il y a deux principes. Il nous faut nous séparer définitivement du péché. Amen. Dans Ésaïe 59, le Seigneur va être clair. Il va dire, son oreille n'est pas devenue dure pour nous entendre, ni sa main courte pour nous bénir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Amen. C'est parce que nous nous comportons justement comme ces maçons-là qui prennent la terre et mélangent avec du ciment. Amen. Ça ne peut pas tenir. Si tu veux ce qui va tenir, ça doit être le ciment avec le sable. Amen. Si tu prends le ciment et tu mélanges avec la terre, ça ne va pas tenir. Quelqu'un me comprend? Ça peut tenir pour un temps. Mais le moindre vent va venir. C'est à terre. Amen. Donc, nous devons bâtir une relation saine avec le Seigneur. Alléluia. Es-tu vraiment marié à Christ?